Radio Okapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Bukavu au sud Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Le président de la République appelle tous les Congolais à l'unité et au sens élevé du patriotisme pour faire face notamment à l'insécurité qui gangrène le pays. Félix Tshisekedi l'a dit dans son discours d'investiture hier samedi 20 janvier ici à Kinshasa. La coordination de la protection civile de la ville de Beni au nord Kivu appelle les autorités militaires à contrôler leurs hommes de troupes afin que les civils soient protégés. Cet appel a été lancé hier samedi, 48 heures après l'assassinat par balle d'un civil par un présumé soldat des FARDC à Beni. L'invité de ce journal est le coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Christian Moleka décortique les discours d'investiture du président de la République hier samedi au stade des martyrs de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République appelle tous les Congolais à l'unité et au sens élevé du patriotisme pour faire face notamment à l'insécurité qui gangrène le pays. Il a dit dans son discours d'investiture hier samedi, Félix Tshisekedi, son nouveau mandat, selon Félix Tshisekedi, son nouveau mandat intervient dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. Cela en fustigeant la complicité de certains Congolais avec les ennemis pour faire couler le sang de leurs compatriotes. Il ajoute que toutes les erreurs du passé ne vont plus se reproduire. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Grâce Amzati Massanzi.
Toujours sur le plan national se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous lèguerons entière aux générations futures. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée.
Venons-en à présent aux attentes de la population après l'investiture du chef de l'État. À Goma, dans la province du Nord Kivu, ces attentes vont de la paix à la construction des infrastructures sociales, en passant par le respect de la biodiversité et le respect des lois de la République, et autres normes pouvant entraîner le développement plus stable de la région et du pays tout entier. Suivez ces personnes qui se sont confiées au micro de Bernard Denyangui.
En finir une fois pour toutes avec la guerre et toutes ces différentes agressions, et je crois que c'est le moment pour lui de concrétiser ses différentes promesses faites durant sa première législature et les mêmes promesses qui ont été encore renouvelées pour la nouvelle législature. En finir une fois pour toutes avec cette fameuse histoire de M23 et consorts.
Nous, population du territoire de Masisi, nous attendons la paix, la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, tout peut aller. Les infrastructures, surtout la route, il y a vraiment un grand problème. Les hôpitaux, dans le groupement Fouandou 1er, il n'y a pas même un hôpital. Nous allons dans le Fouandou 2, il n'y a pas l'hôpital. C'est difficile. Sur le plan éducatif, les écoles ne sont pas construites. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions.
Tous les Congolais, ils attendent du chef de l'État l'amélioration du climat des affaires, renforcement de la transparence dans la gouvernance, une loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme qui incarne dispositions répressives et liberticides. Et nous pensons que c'est le moment de revisiter toutes ces politiques qui ne sont pas favorables pour le développement de la démocratie.
Et toujours en rapport avec les attentes, au lendemain de l'investiture du chef de l'État, Dans la province du Maniema, les avis sont partagés. Si la plupart des gens félicitent, d'autres cependant invitent le chef de l'État à tenir compte de l'opposition congolaise pour une cohésion nationale. Suivez quelques habitants de la ville de Kindu au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes très 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 contents. Nous espérons que cette fois-ci, les points par rapport au développement seront mis au point pour les 5 ans qui viennent. Et pour le Maniema, nous avons besoin d'un développement durable.
Bon, nous disons que le chef de l'État, il est devenu notre chef à tous. Maintenant, qu'il puisse trouver la paix à considérer les autres, c'est-à-dire au sein des institutions, qui puissent faire que les opposants qui puissent aussi être à l'intérieur pour qu'on ait une paix durable.
Mais comme recommandé, si je peux parler, qu'il ne soit pas un président rancunier, comme conseil que je peux lui donner, c'est de travailler plus dans des endroits où on l'avait pas voté. Il est déjà investi, il est président. C'est mieux qu'il soit un président de tout le monde et qu'il ne soit pas un rancunier. Qu'il travaille, c'est pas ce qu'il avait fait au premier mandat. Il nous avait oublié ici au Maniema. Ce que nous demandons est qu'il puisse rectifier ses tirs pour bien avancer. Nous sommes des enfants, il est papa, qu'il rectifie ses tirs. Nous espérons quand même à ses deuxième mandats, ça ira.
Autre nouvelle, la coordination de la protection civile de la ville de Beni au Nord Kivu appelle les autorités militaires à contrôler leurs hommes des troupes afin que les civils soient protégés. Cet appel lancé hier samedi survient 48 heures après l'assassinat par balle d'un civil par un présumé soldat des FARDC, alors que la victime est retournée à son domicile dans la nuit de vendredi à samedi. Jean Capitula, coordonnateur de la protection civile de la ville de Beni, appelle aussi la population à la discipline et à ne pas se promener à des heures tardives pour sa propre sécurité. Il l'explique au micro d'André Kitenge.
En tant que coordonnateur de la protection civile, je ne peux que appeler d'abord les autorités au contrôle des éléments de l'ordre. C'est-à-dire, jusque maintenant, celui qui a tiré sur ce paisible civil n'est pas encore identifié. Et là, il faudra que les autorités qui ont dans leur charge la sécurité et la protection des civils et leurs biens, ils doivent revoir la manière de faire ce travail qui est très capital pour permettre à la population de vivre en sécurité. Nous pensons aussi appeler la population à voir quand est-ce que se mouvoir. Même s'il n'y a pas d'obstacles comme couvre-feu ou autre, nous devons nous-mêmes faire notre propre sécurité avant de demander les services à nous sécuriser. Et donc ici, nous allons demander aussi les acteurs des droits de l'homme, les acteurs de la société civile, de ne pas se limiter à faire souvent des dénonciations et autres. Ils doivent aller en profondeur, faire des lobbying avec les autorités pour que, à des questions comme ça, que justice soit faite.
Au Nord Kivu, les FARDC ont remis vendredi dernier à la section protection de l'enfant de la Monisco Beni 8 enfants libérés des mains des rebelles de ZADF. Ces enfants faisaient partie des 17 ex-otages qui ont été remis à la société civile de Beni. Tous ont été libérés lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles des ZADF sur l'axe Mbau-Kamango et à l'ouest de la route nationale numéro 4. Bernard Okanda, le chargé de la protection de l'enfant au bureau de la Monisco Beni, salue cette collaboration avec les FARDC. Il explique la suite du processus de réinsertion familiale pour ces enfants. Il est au micro d'André Kitenge.
Les FARDC ont mis à la disposition de notre bureau protection de l'enfant de la Monisco 8 enfants qui sont sortis des groupes EDF comme d'habitude. Cela rentre dans un cadre de processus normal. Et lorsque nous recevons ces enfants, l'étape suivante, c'est de les confier à notre tour aux partenaires de l'UNICEF. Parce que c'est l'UNICEF qui est chargé de tout ce qui est programmatique par rapport à leur prise en charge transitoire et leur réinsertion socio-économique. Nous avons le partenaire de l'UNICEF ici dans notre zone qui est une ONG locale. C'est un processus qui a pris un peu de temps, mais nous croyons que dans le futur, nous allons continuer avec les FARDC à travailler dans une très bonne collaboration. C'est ce que nous espérons. Il y a ces enfants qui ont passé un mois ou plus entre les mains des FARDC. Il y a les enfants qui ont fait presque 2 mois. Mais l'essentiel pour nous est qu'à la fin des comptes, ils nous ont remis dans le cadre du respect des engagements qu'ils avec les Nations Unies.
En Ituri, plus d'un millier d'enfants mineurs sont utilisés comme main-d'œuvre dans plusieurs carrières minières dans le territoire de Djougou. Parmi eux, des filles qui servent dans des bistrots et des maisons de tolérance pour des sommes insignifiantes, déclare le bureau genre, famille et enfants de cette entité territoriale. La chef de service alerte le gouvernement en vue de mettre fin à cette pratique qui détruit l'avenir de ces enfants, dont la plupart ne vont pas à l'école. Des détails avec Isaac Remouyopi.
Les enfants mineurs qui offrent leurs services à vil prix sont très sollicités dans les différentes carrières dans les territoires des Djougou, notamment à la périphérie des communes rurales de Mungwalou et dans d'autres chefferies de cette entité. Ils servent surtout pour le transport des sables et des pierres contenant les minerais. D'autres, surtout des filles, sont recrutées dans des maisons de tolérance pour la prostitution qui rapporte des revenus à leurs tenanciers. Selon les bureaux genre des Djougou, de nombreux enfants sont également utilisés par leurs parents pour la vente des pains, des beignets et d'arachides dans les carrières. Biwaga Harut attribue cette pratique qui est devenue quasi normale, surtout à la pauvreté et à l'insécurité. Elle lance un appel aux autorités compétentes en vue de mettre fin à ces violations des droits des enfants dans cette entité territoriale.
Les enfants qui quittent d'autres provinces, qui partent dans la zone minière là pour faire les travaux lourds là, dans les sites miniers, concasser les minerais, et ils ne sont pas payés. C'est que nous condamnons plus l'exploitation des enfants aux fins sexuelles. Les statistiques sont très hautes. Vraiment, c'est triste. Nous demandons à l'État de punir les auteurs.
Les bureaux genre du territoire de Djougou recommandent notamment l'installation d'une antenne du tribunal de paix à Mungwalou en vue de réprimer ces violations des droits des enfants ainsi que d'un centre d'encadrement des mineurs. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
6 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans un accident de circulation survenu vers 10h du matin hier samedi 20 janvier sur la route nationale numéro 1 à 1800 mètres du péage de Kasangoulou. Nous sommes dans la province du Congo central. Selon le commandant de la police du commissariat du territoire de Kasangoulou, il s'agit d'un camion sinotruc OO appartenant à une personne non encore identifiée en provenance de Kinshasa vers Ngindinga, en territoire de Madima, chargé de marchandises et de plusieurs passagers. Ce camion s'est renversé dans le ravin à cause de l'excès de vitesse. Les 6 corps ont été extirpés du ravin et acheminés à la morgue de Kasangoulou, tandis que les blessés, dont 10 graves, et 15 légers sont pris en charge à l'hôpital Massa de Kasangoulou. Les dégâts matériels sont très importants sur l'engin, ajoutent les sources policières. Retour au Nord Kivu, où les pêcheurs congolais du lac Édouard, en territoire de Rutshuru, tirent la sonnette d'alarme sur la saisie depuis le 17 janvier courant de plus de 20 moteurs hors bord des pêcheurs congolais du lac Édouard par la force marine ougandaise. La situation est d'autant plus dangereuse qu'à leur tour, les soldats de la marine congolaise ont saisi, en date 19 janvier, au moins une douzaine de moteurs hors bord des pêcheurs ougandais sur le même lac. En plus de la pêche illicite exercée par les pêcheurs clandestins des deux côtés, les pêcheurs congolais regroupés au sein de la Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard, Fécopéil, pensent que la situation a été empirée par le déplacement des lits respectifs des rivières Kagezi et Chapa, deux affluents du lac Édouard. Jules Ngala, pour plus de détails.
Les rivières Kagezi et Chapa auraient vu leur lit modifié jusqu'à au moins 8 km à l'intérieur des terres congolaises, contrairement à leur cours habituel. Ce qui semerait de la confusion au niveau des eaux territoriales de la RDC et de l'Ouganda sur le lac Édouard. Et du coup, certains pêcheurs se retrouveraient souvent sans le savoir au-delà des frontières liquides de chacun des deux pays lorsqu'ils font leurs activités de pêche sur le lac. Le secrétaire général de la Fécopéil, dans une lettre d'alerte adressée aux autorités militaires du Nord Kivu, revient sur l'éternel problème de balisage des frontières liquides entre la RDC et l'Ouganda sur le lac Édouard, ce qui, selon lui, pourrait diminuer les arrestations des pêcheurs et les fréquentes saisies des moteurs hors bord de leurs embarcations. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
En sport, à Bukavu, les Congolais restent positifs quant au match de ce dimanche qui oppose la RDC au Maroc. Cela dans le cadre de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Malgré le match nul avec la Zambie, les Bukaviens restent confiants quant au Lopar pour le prochain match. Certains pensent que pour y arriver, le sélectionneur de Lopar doit effectuer quelques réajustements. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Rachel Kessembangou.
Nous croyons que le match va bien se passer. Nous savons que ça sera difficile. Mais simplement, si les coachs essayent de changer quelques joueurs, surtout en attaque, nous pouvons gagner le match.
Pour les prochains matchs, je crois que nous allons gagner ce match. Il suffit que l'entraîneur puisse nous donner un bon numéro 9 pour bousculer la défense adverse et donner la morale aux joueurs. Nous avons des bons joueurs qui vont s'y prendre. Je crois que nous allons gagner le match. Les pronostics, nous allons gagner 2-1.
Les gens ont trop peur du Maroc, mais moi je sais que nous allons gagner. Moi je suis confiante, nous allons gagner.
Ce match-là, ça sera vraiment un match très difficile pour nous, puisque nous sommes en train de courir derrière les points. Et ça pourra être un match facile pour les Marocains. Bon, vu ce qui s'est passé la fois passée, donner un pronostic, c'est un peu difficile pour moi.
Premièrement, je suis congolaise, donc j'ai fait confiance à notre équipe. Et je crois qu'on va marquer quelques billes. Bon, je l'espère.
Actualité internationale.
Aux Comores, la journée de vendredi 19 janvier était calme à Moroni ainsi que dans tout le pays. Et cela, en dépit de l'appel lancé par les 5 candidats de l'opposition qui s'estiment floués par les résultats de la présidentielle. Au Bénin, un recensement général des prêtres du Fa a été lancé il y a quelques mois. Ce sont ceux que les Béninois consultent pour donner des indications sur l'avenir, les difficultés à prévoir et les actions à prendre pour y remédier. Un art divinatoire lié à la religion vaudou. L'objectif du recensement est de mieux encadrer les secteurs pour éviter les dérives.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka décortique les discours d'investiture du président de la République hier samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte, ici à Kinshasa. Il s'entretient avec Blaise Sindani Kambala.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Que pouvons-nous retenir du discours d'investiture du président de la République de samedi dernier?
On peut retenir que le président a résumé ce qui peuvent être ses lignes directrices autour de 4 axes importants, à savoir la cohésion nationale, l'économique, la monnaie et la sécurité. Sur les questions de cohésion, le président est revenu sur la nécessité de consolider les vivre ensemble, lutter contre le tribalisme, de donner une place à l'opposition, notamment au sein du Parlement. Il a tendu la main à l'opposition. Sur les questions économiques, le président est revenu sur la nécessité de diversifier l'économie, de réindustrialiser, de donner une place importante à l'agriculture. Et sur la question de la monnaie, il a évoqué les questions du pouvoir d'achat, les questions de la stabilité du franc congolais. Et enfin, sur la question sécuritaire, il a évoqué les questions sécuritaires, notamment les réformes de l'appareil sécuritaire pour répondre aux menaces extérieures, notamment les menaces des pays voisins.
Parlant de questions économiques, le chef de l'État a parlé de la diversification de l'économie nationale et même la stabilisation de la monnaie. Comment cela peut être réalisé si nous savons que nous avons une économie extravertie?
Lorsque nous avons connu la Covid, par exemple, le gouvernement a parlé de la relance des filières, notamment de la filière riz, de la filière café. Le Congo importe énormément du riz, alors que nous avons la possibilité de développer la filière riz à Bumba, où tout le monde connaît le riz du Bumba. Donc si nous voulons demain diversifier l'économie, nous devons soutenir l'agriculture qui nous permettra de produire localement et de compenser ou de remplacer ce que nous importons. Si par exemple tout le monde connaît le débat sur le bateau de pêche avec les poissons du début du mandat passé, si nous relançons l'industrie de la pêche, ça nous permettra de produire localement et quand vous produisez pour localement, vous n'importez plus et donc vous ne sortez plus de devise. Donc il est possible de diversifier l'économie, encore faut-il que les réformes profondes soient mises en place pour pouvoir créer plus de richesses à l'intérieur, augmenter notre capacité à faire entrer les devises, mais également réduire les sorties de devises qui font que nous sollicitons tout le temps nos réserves en change parce qu'il faut acheter à l'extérieur et donc permettre à ce que nous ayons un minimum de stabilité à l'intérieur.
Il a aussi abordé la question sécuritaire. Il a dit vouloir éradiquer tous les groupes armés qui pilulent dans l'est du pays. Comment pourra-t-il s'y prendre cette fois-ci pour amener la paix totale dans l'est du pays?
Le Congo doit réactiver le côté diplomatique parce qu'il y a énormément d'initiatives diplomatiques qui sont encore sous la table, à savoir l'accord de Luanda, l'accord de Nairobi. Il faut être capable de redimensionner militairement notre armée, de l'équiper suffisamment pour être capable de dissuader à l'intérieur tous les autres mouvements, de restaurer l'autorité de l'État. Et puis à la fin, il faut savoir aller jusqu'au bout de la DDR. Nous avons un PDRSS qui bloque, qu'il faut financer nous-mêmes. Il faut que nous arrêtions tout le temps de dépendre des financements extérieurs, financer nous-mêmes le DDR, parce que tous ces groupes armés, il faut les désarmer, il faut le ramener dans la vie normale, et ça demande donc un processus de DDR. Mais il y a des questions de fond qu'il faut régler en même temps. Parce que quand on dit sécurité, la sécurité, elle est globale. Elle demande également que nous réformions la territoriale, que nous réformions les renseignements, que nous réglons les problèmes de cohabitation pacifique, donc de vivre ensemble, et que nous réglons les problèmes fonciers. Parce que beaucoup de conflits tournent autour du foncier. Et tout dépendra des réformes que le président mettra en place pour répondre à toutes ces questions-là.
Terminons par cette question de l'opposition. Le président de la République souhaite que cette fois-ci, l'opposition ait son porte-parole. Croyez-vous que dans les contextes actuels où Moïse Katumbi n'est pas élu au Parlement et que Martin Fayulu n'a aucun député. Donc vous croyez qu'il est possible d'avoir un porte-parole de l'opposition?
C'est une question complexe parce que depuis 2011, si l'opposition n'arrive pas à avoir un porte-parole, c'est parce que nous avons toujours une opposition à double vitesse. Une opposition à l'intérieur du Parlement, puis une opposition à l'extérieur du Parlement. Rappelez-vous du vieux Étienne Tshisekedi qui faisait des positions extra-parlementaires et d'autres dynamiques des positions de l'opposition parlementaire avec Jean-Pierre Bemba, puis Robert Roy à l'époque. Ce schéma-là n'est pas très loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un Fayulu qui ne va pas se retrouver dans le jeu parlementaire parce qu'il n'a pas de député, un Katumbi qui va refuser à ses députés de siéger et donc qui n'a pas intérêt à jouer ce rôle au sein du Parlement, puis une partie de l'opposition minoritaire qui sera dans le Parlement, notamment d'Ipro, de Costa Mutamba. Et donc face à une opposition qui se retrouve encore au sein des institutions, puis une autre à l'extérieur, et il me semble difficile de parvenir à trouver un consensus sur ce porte-parole d'opposition.
Christian Moleka, politologue et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Christian Moleka s'entretenait avec Blaise Sindani Kambala. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Mimi Kindou. À vous infiniment merci de l'avoir écouté.